Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et sur www.rdwa.fr. Aujourd'hui, avec moi dans le studio de RDWA, Jean-Michel Alcaraz, un lithograveur qui organise conjointement avec la ville de Valence une exposition qui s'intitule « Un certain regard sur Valence » et qui aura lieu dans la maison du gardien du parc Jouvet du 26 septembre au 13 octobre. On reprécisera les horaires en fin d'interview. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Louis.
Alors, qu'est-ce que la lithogravure ?
Alors, il était une fois la lithogravure. Lorsque nous étions enfants, par exemple, nos instituteurs nous faisaient prendre une pomme de terre qu'on a coupée en deux. Et après qu'un couteau, on taillait dans la pomme de terre. Ensuite, on allait sur le tempo-encreur et on avait une empreinte. C'est le principe de la litho, de la lithogravure. Sauf que la litho, ça se fait sur de la pierre, d'où son nom. Et donc, quand on fait la lithogravure, on fait des superpositions de couleurs, plus ou moins primaires, tout comme pour vos imprimantes, hein. D'accord ? Jaune, bleu, rouge, vert, noir. Non, pas le vert. Et on superpose, et donc ça fait une litho. Celui qui a inventé ça, c'est Toulouse-Lautrec. Avant, ça servait pour l'industrie, pour le business, pour les affiches à Paris, à la fin du 19e. Et Lautrec a eu l'idée d'utiliser ça pour les arts.
Alors tu dis que c'est de la pierre, hein, c'est de la pierre, on taille une matrice en pierre.
Voilà, pour chaque couleur, on prend une pierre et on fait le jaune, on fait le bleu, on fait le rouge et on fait le noir.
Et c'est quoi comme pierre ?
C'est une pierre calcaire. Il y en a par exemple à... Là où il y a la comtesse, là tu sais, les lettres de... dans la Drôme. Tu vois ? C'est une pierre très fine, un calcaire avec du grain très très fin. On grave, et du coup il y a oui, il n'y a pas hein, la couleur. Quand ensuite on passe le rouleau de couleur, et après on passe à la presse, tchac. Et hop, on a une couleur. Puis après, on fait une autre, et une autre, et une autre. À la fin, il y a l'image.
Et alors, ça coûte cher de faire une pierre comme ça ?
C'est du temps.
Bon, je veux dire, toi, en tant que lithograveur, c'est pas toi qui les grave, ces pierres ?
Alors non, parce que nous vivons une époque formidable, et j'ai fait une transposition comme Liszt faisait des transpositions en musique. C'est-à-dire que j'ai transposé ça en numérique. Donc mes pierres sont virtuelles. Et c'est encore plus fin que la pierre.
Alors comment ça marche ? Explique-nous un peu.
Eh bien, sur les ordinateurs, lorsqu'on a une image est faite de quatre couleurs primaires. Le rouge, le cyan, magenta, jaune et noir de nos chères imprimantes. Eh bien, sur chaque couche, je retravaille, moi, à l'ordinateur, je grave à l'ordinateur, et ensuite, je fais mes images. Et c'est beaucoup plus précis que à l'ancienne.
J'espère que tu ne te parais pas obtus, mais je ne comprends pas encore comment ça marche, parce que tu me dis que tu fais ça à l'ordinateur. Mais concrètement, il y a une gravure d'une pierre, ou alors même l'impression est informatique ?
Tout est informatique, et je peux aussi le faire sur pierre. C'est dans mes projets, mais c'est un problème de budget et de temps. Or, il se trouve que nous vivons une époque formidable avec le numérique, et elle est très bonne machine. Nous avons ici à Die quelqu'un qui est formidable, c'est avec lui que je prépare l'expo. C'est l'imprimerie Caillol. Voilà.
Et donc le rendu est équivalent, quelle que soit la technologie.
J'ai ça là. Je pourrais te montrer.
D'accord. Tu m'as envoyé quelques...
Non, mais là,
nous sommes à la radio et que pour nos auditeurs, ce n'est pas très parlant. En fait, j'ai vu ton dossier que tu m'as envoyé. Effectivement, c'est assez impressionnant. Le rendu des couleurs, enfin, comme tu dis, c'est souvent des couleurs primaires, en fait.
Oui. Ah oui, une dernière chose, c'est... La lithogravure me sert à présenter un travail, une réflexion sur le cinéma que je déstructure, c'est-à-dire que j'essaye de changer l'angle de l'art d'utiliser le cinéma, qui est 24 images secondes, c'est-à-dire on donne l'illusion de la réalité avec le cinéma par 24 images secondes. Du coup, quand on regarde dans un écran, on croit que c'est le réel. Notre cerveau fait ça. Et donc, je travaille là-dessus pour le déstructurer et pour faire une pause, voilà.
C'est-à-dire que tu considères qu'une lithogravure, c'est une des 24 images de la seconde.
Alors voilà, j'ai pris ce chiffre au niveau symbolique qui fait que quand je présente mon travail, par exemple à la Maison du Gardien, il y aura 6 salles. Dans chaque salle, je raconterai une histoire, comme un film. Ce sera une énorme BD avec 12 lithos en format raisin, c'est-à-dire un peu plus grand que A3. et je raconte une histoire muette. Et une dernière chose, tu parlais donc des images que tu as aperçues. Je suis dans les primaires puisque je suis dans la mouvance des fauves, des peintres fauves qui enlèvent la courbe et qui utilisent que des aplats, pas de dégradés comme en photo ou en peinture. Voilà.
Donc ça fait de l'art plus brut avec moins d'ombre et de variation, quoi.
Ça fait une superposition d'aplats, ce qui fait que ça fait un peu comme des cristaux un peu, et c'est un peu du cubisme et un peu du géométrique, voilà, puisque j'ai pas de courbe. Voilà à peu près l'idée.
La connexion avec le cinéma, alors, comment t'est-elle venue ?
Très simplement, j'ai eu une réflexion là-dessus, c'est qu'au départ, les êtres humains, quand ils se rencontrent, ils se racontent des histoires. Là, on est dans la phase orale, c'est l'oralité. Au début, les hommes se racontaient des histoires, quand ils sont autour du feu ou de la gamelle ou tout ça. Ensuite, il y a un monsieur qui s'appelle Gutenberg qui a inventé le livre. Là, ça a été une autre manière de raconter les histoires, par le livre, par l'impression. Alors l'avantage de l'oralité et du livre, c'est que l'auditeur, enfin celui qui écoute l'histoire, peut faire une pause quand il veut avec l'interlocuteur ou avec le livre. Or, avec le cinéma, là on en arrive au cinéma, on ne peut pas. Si vous regardez ce soir un film et que vous avez un coup de fil, ben, vous aurez un coup de stress parce que vous êtes en train de courir après le film. On ne peut pas l'arrêter, à moins de faire pause, etc. Mais bon, voilà l'histoire. Donc du coup, je propose de réenvisager le cinéma, mais c'est très subjectif, hein, c'est mon point de vue, c'est mon angle d'artiste, de réinventer une forme de cinéma qui est voilà, un cinéma muet et stylisé. Voilà. Une des dernières particularités du mouvement fauve, c'est qu'on fait des images à moitié faites, qui fait qu'on invite le spectateur à imaginer l'image de son côté. Donc chacun voit l'image comme il le veut, puisqu'elle est à moitié finie. Pas parce qu'elle est mal finie, elle est volontairement à moitié faite pour que l'imaginaire du spectateur fasse le reste. Voilà.
Alors, dans le dossier de presse que tu m'as communiqué, ça commence par une citation de Romain Rolland en 1924 qui dit « J'exprime des regrets que le cinéma muet ait été abandonné. Il aurait dû conserver sa place. Il possède un pouvoir de suggestion que le cinéma parlant n'aura jamais. » Tu partages cette citation ?
Absolument. Voilà.
Tu as bien aimé The Artist, par exemple ?
Oui et non.
Pourtant, c'était un retour audacieux vers un cinéma muet, quand même.
Voilà, mais bien vu au niveau business, c'est-à-dire, voilà, bon, c'est un truc à la mode et tout, quoi. Mais c'est un peu cliché, voilà. À mon humble avis, voilà.
Alors, pourquoi le cinéma muet a-t-il un pouvoir de suggestion supérieur au cinéma parlant ?
Parce qu'il y a une suite d'images, il n'y a pas de paroles. Donc on ne suggère pas ce qu'on doit penser ou imaginer, donc c'est nous qui le faisons. Donc chacun voit le film à sa manière. Et en fond, il y a la musique, le pianiste à l'époque.
D'accord. Hein ? Ça se fait plus trop de nos jours quand même, le cinéma muet, à part The Artist.
Si, regarde, tu as un film qui s'appelle Mort à Venise, ça parle très peu. C'est comme un tableau qui dure une heure et demie. Voilà un exemple de film parlant et classique. Mais qui est tellement épuré dans les images, dans le peu de paroles, et dans la musique, bien sûr, de Mahler, que voilà, là, ça, c'est pour moi, c'est du bon signe. Voilà.
Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu d'un certain regard sur Valence ? Dans tes 6 salles, tu as donc 6 BD qui sont proposées, mais sur quel thème ?
C'est un hommage que je rends à la ville de Valence, où j'ai vécu 3 ans avant de venir m'installer ici, à Saint-Julien-en-Quin. C'est pour ça que je suis ici. Pour remercier la ville de Valence qui a reconnu mon travail au niveau artistique, puisqu'on a des projets encore, je leur ai proposé, avant de partir, je leur ai dit comment je vivais Valence. J'avais décidé de ne plus avoir de voiture, je faisais du Vélib, à Valence il y a les Vélib qu'on utilise, et donc j'allais souvent au port de l'Épervière, et j'ai un certain regard sur Valence, un peu décalé quoi. C'est ce que j'ai proposé et la commission a accepté. Voilà.
Donc ces tableaux représentent des paysages valentinois ?
Et des personnages aussi. J'aime bien les portraits, les gens. Voilà. Donc j'ai la sortie de la gare. J'ai la sortie du lycée Bill Loubet sur le Champ de Mars. J'ai le port de l'Épervière.
Et alors l'image originelle sur laquelle tu appliques tes différentes strates de couleurs, c'est à partir d'un dessin ou d'une photo ?
C'est de la photo que je déstructure, que je décompose en 4 couches. Et je travaille couche par couche et après je remonte.
C'est des opérations qui prennent beaucoup de temps ?
Qui mettent beaucoup de temps à régler. Et ensuite, c'est assez rapide. Et après, mon travail est donc un travail de sélection pour voir si les images me conviennent ou non. Donc il y a beaucoup de déchets qui partent à la poubelle. Voilà.
Alors je suis pas spécialement cultivé en matière d'art contemporain et de peinture, mais dans mes quelques références, j'en ai une qui me ferait penser un peu à tes travaux, à savoir Andy Warhol qui a fait des lithogravures, non ?
Voilà.
Les boîtes de, comment on appelle ça ?
Campbell.
La soupe
Campbell, tout ça. C'est-à-dire, lui, il a utilisé ce qu'on appelle la sérigraphie, et moi j'utilise la lithogravure.
Mais avec des variations et de couleurs et d'angles peut-être ?
Lui, il prenait des photos, et à partir du cliché, il avait son noir, qui était l'équivalent de son dessin de base, et ensuite, il faisait de l'overpainting par-dessus. Avec des aplats, il était aussi dans la mouvance fauve. Voilà. Donc voilà, Warhol, c'est ça. C'est du noir et blanc, épuré. C'est-à-dire, il a stylisé en photo, puisqu'il était dans la pub avant. Et c'est à force de faire la pub qu'il a eu stylé. Et après, il imprimait donc, en série son noir et blanc, son noir sur blanc. Et après, il prenait de la peinture et il mettait de la couleur. D'où les images de Warhol.
Avec Marilyn Monroe.
Voilà.
C'est assez connu quand même.
Mao, etc. Oui.
Et qu'est-ce que tu penses de son travail, t'aimes bien ?
Ah, beaucoup, beaucoup. Il a fait basculer l'art dans l'acceptation que l'artiste ne doit pas s'échiner à faire une toile pendant 6 mois. Il peut le faire de manière industrielle.
Ça me fait penser à un représentant du pop art aussi qui a fait des variations comme David Hockney.
Ouais, il y a lui, il y a Liechtenstein, il y a Robert, j'oublie son nom, voilà, il y a un paquet. Tout ça, c'était le même club.
Et sinon, alors, tu te présentes comme un lithographeur et aussi un artiste. Alors, est-ce que tu arrives à vivre de tes œuvres ? Je suis désolé d'aborder ce chapitre un peu douloureux souvent.
Non, c'est hyper simple. J'ai eu la chance qu'avant, j'étais homme d'affaires et j'ai fait fortune, donc j'ai connu ce que c'est d'avoir de l'argent, en gagner et en dépenser, et puis pas avoir le temps et tout. Ce qui fait que donc, j'ai fait l'inverse. Comme j'ai appris à gérer une fortune, j'ai appris à gérer la pauvreté de l'artiste. Ce qui fait donc j'ai appris à vivre sobrement pour me payer le luxe de faire mon boulot. Donc tous les matins, je ne fais pas le compromis comme beaucoup. Et je ne reproche pas, hein, chacun son choix. Le mien et celui-là, c'est que pour garder tout mon jus, comme on dit, je fais que ça. Et par contre, je vis humblement, mais ça me va.
Comment valorises-tu tes compétences, voire ton art ? Tu ne fais que des expositions ou tu as des clients pour des commandes particulières ?
Les deux. Et je fais partie d'un groupe d'artistes belges de Charleroi qui a un rayonnement au niveau mondial puisqu'on est 1900 artistes sur Facebook dans un club privé. Et on fait des échanges entre nous pour les expos, etc. etc. Là, on vit à l'époque de Internet, c'est bien pour ça, pour la communication.
Mais alors, quand tu dis que tu as des clients, alors, quel type de clients, pour quel type de commande ?
Les gens voient mon travail, ils disent « je veux celui-là ».
Ah oui, d'accord, mais ils ne te demandent pas « tiens, je voudrais ma maison en lithogravure, par exemple ».
Ah non, ça, je serais artisan. L'artisan fait travail sur commande, tandis que l'artiste, on ne lui dit pas ce qu'il doit faire.
D'accord, ok.
On achète ce qu'il a fait, on n'achète pas.
On pourrait te suggérer un thème sur lequel tu pourrais t'épancher, c'est la commande. Hein. Il y a eu des mécènes qui travaillaient sur ce
type. À Valence, je leur ai proposé de faire un hommage à la ville. Du coup, ça a été le jeu, quoi. Mais ça me va, quoi. Donc du coup, on pourrait convenir, je pourrais faire un travail sur le Radio Diwa, voilà. Parce que j'aime beaucoup la tenture, il y a un beau rouge.
Ah oui, hein, c'est rougeoyant. On nous a fait peur au début quand on a mis cette tenture rougeoyante.
Ah bon ?
Et on nous a dit, non, ça ressemble plutôt à un salon de Madame Irma, il manque plus que la boule de cristal. Ouais. Mais en fait, c'est chaleureux, c'est vrai.
Ou chez Sigmund aussi, il manque plus que le divan.
Donc tu serais prêt, par exemple, à te laisser inspirer par notre studio, quoi ?
Oh oui, à l'aise. Entre la salle commune, qui m'a bien flashé, la cour, le studio... Ah oui.
Alors justement, ce serait très intéressant que tu nous lises ton processus créatif. Raconte-nous c'est A à Z.
C'est le cinéma, c'est hyper simple. Je fais d'abord du repérage, je me pointe, donc je mate un peu l'endroit, je m'en imprègne. La deuxième fois, je viens pour faire des premières prises de photos avec un iPhone, tout bête. Hein. Clac, 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 clac. Je rentre à la maison, je vois à peu près, je me passe en diaporama un peu l'impression de l'histoire du film que je me suis fait par cette suite d'images. Là, à partir de là, j'en tire les conclusions. Et là, à ce moment-là, je demande un rendez-vous. Et là, je canarde. Là, c'est la dernière prise. Après, je rentre à la maison. Je fais mes tris. Et après, c'est là où commence... Quand j'ai fait mes tris, il m'en reste 5%. Parce que j'ai pris, moi je canarde beaucoup à l'appareil, comme une Kalachnikov, à l'impression quoi, tac 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 tac. Et puis après une fois je commence le travail de litho, et c'est là où je détermine ce qu'on appelle la palette de couleurs, pour que ce soit cohérent dans l'histoire, dans le cinéma on le fait aussi, c'est-à-dire que pour que l'histoire soit cohérente au niveau visuel pour le cerveau, il faut qu'il y ait toujours la même ambiance, ce qu'on appelle une palette. Donc je la détermine, et après je fais mes séries. Et après je sélectionne, et j'en enlève encore et encore. Ce qui fait que donc, une référence à Picasso, il disait, bon, vous avez aimé ce dessin, ben, il y en a 49 qui sont allés à la poubelle. Quoi. Donc voilà, on bosse.
Et ça pourrait te prendre combien de temps un projet pareil? C'est beaucoup de travail?
Pour faire le projet...
Par exemple, un projet de lithographie sur Erdiwa, par exemple. Ou sur n'importe quel autre sujet, hein, je ne veux pas être égocentrique.
Non, mais je vois. Si j'ai que ça à faire, hein, je peux régler l'affaire en un mois, parce que je travaille beaucoup. Je suis quelqu'un qui me lève tôt, je me lève à 4h du matin, et je me couche à minuit. Et je fais juste une sieste de 10 minutes après le repas de midi. Donc ça tombe.
En un mois, tu pourrais avoir fait un travail sur Erdiwa ou sur n'importe quel autre sujet un rendu.
En décembre, on peut faire une expo sur Erdiwa.
Bah écoute, c'est une bonne idée
avec
à suivre.
Hein, mais moi, j'arrive ici, j'essaye de me présenter à la ville, hein, et aux environs, donc avec plaisir.
Alors sache que Erdiwa, j'en profite justement de ton émission pour lancer un appel au peuple. Nous avons désespérément besoin d'argent. Désespérément non, mais nous avons besoin d'argent. Et vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, pour nous soutenir en allant sur un onglet Soutenez Erdiwa dans lequel vous trouverez un petit papillon pour adhérer. Nous avons 240 adhérents qui ont, par leur petite adhésion de 10-15 euros, permis à ce que Radio Diwa continue d'exister. Et nous avons besoin de vous. Donc si d'aventure une exposition de lithogravure, ce ne serait pas nous qui te paierions, hein, tu en es bien conscient.
Ah ben je pourrais faire ça, par exemple je pourrais faire l'expo, et ça serait donc l'argent de l'expo serait pour faire une cagnotte pour Radio Diwa. Ouais.
Ah oui, mais tu en garderais un pourcentage, car nul n'est censé travailler pour rien.
Voilà, on peut convenir que ça me paye l'encre et le papier quoi.
Bah écoute, moi je trouve que c'était un bon projet, et si tu as du temps disponible, il n'y a aucun problème.
Avec plaisir.
Alors, on va revenir à Valence, à cette exposition « Un certain regard sur Valence ». Donc, tu en espères quoi, en fait? Tu espères une reconnaissance locale, voire régionale, et puis peut-être que des gens achètent aussi tes lithogravures?
Alors, cette expo sera surtout pour moi, là, entre autres, une manière de faire connaissance avec tous les gens qui comptent au niveau culturel dans l'agglo valentinoise, puisqu'ils sont tous invités. Et ça me permettra surtout de faire connaissance avec, entre autres, la directrice du musée, qui faisait partie du jury qui m'a sélectionné, voilà. De Valence, pardon. Voilà. Donc, toujours pareil, c'est un mélange, hein, c'est-à-dire que d'un côté, c'est une exposition donc, de prestige, comme on dit, mais en même temps, j'espère bien vendre, donc s'il y a des amateurs d'art, ils spéculeront sur mon travail.
Est-ce qu'on peut voir tes œuvres sur Internet?
Oui. Sur mon compte Facebook.
Non mais très très bien.
Ah bon?
Alors vas-y, rappelle-nous, c'est tout simplement Jean-Michel Alcaraz.
Non, j'ai un pseudo, mais hyper facile à se souvenir, c'est Patrick McMurphy, le héros de Vol au-dessus d'un nid de coucou, le film. Et c'est donc Patrick McMurphy, Purple Lounge, le salon mauve de Patrick McMurphy en anglais.
Très bien, ben, je mettrai un lien vers ta page Facebook et ceux qui ont Facebook pourraient aller te consulter.
Et à l'intérieur de mon compte, j'ai mis une page dédiée à l'expo avec le Work in Progress, qui fait que les gens peuvent voir l'évolution de mon travail d'ici à la semaine prochaine.
Est-ce que tu continues à alimenter cette exposition?
C'est-à-dire, je fais une espèce de... Je raconte une histoire, puisque c'est un peu mon objectif. Je raconte l'histoire de l'expo. Et ça me sert de promo pour l'expo. Voilà.
Est-ce que tu as des projets pour faire des expositions un peu dans le Diwa pour qu'on te connaisse mieux ici localement, ce que Valence? Tout le monde ne va pas aller à Valence pour aller te voir, hein, je te le dis tout de suite.
Oui, oui, non, j'annonce ici, je mets des affiches et tout à 10, c'est une politesse que je fais à la ville puisque j'arrive, enfin à la région, voilà. Mais j'ai pas d'attente que tout dit arrive.
Et donc, est-ce que tu voudrais un jour ou l'autre faire une exposition dans le Diwa?
Oui, mais pour ça, j'ai pas encore repéré un endroit et... qui, où, quand, quoi, comment, tout ça, donc avec le temps, je pense, ça va se faire, ça peut se faire. Hein. S'il y a quelqu'un qui me propose... En principe, moi, quand je débarque dans une ville, puisque j'ai un peu voyagé, la première chose, c'est que je fais une expo dans la ville où je m'installe, donc c'est ici, hein, parce que à Saint-Julien-en-Quai, bon, c'est adorable, mais je pense que c'est mieux dit, quoi. Et voilà, donc je trouverai bien un endroit pour me présenter, quoi.
Et puis il y a aussi peut-être des œuvres inspirées du terroir, enfin localement.
Of course. Et par exemple, là, je suis en train de préparer la vendange de la Clairette pour faire un travail là-dessus.
Et puis, Erdiwa, je vote pour cette proposition. Il n'y a pas de problème.
Je le dis officiellement. C'est quand tu veux.
Bien, Jean-Michel, je te remercie beaucoup de ton passage donc, dans nos locaux. On va rappeler un certain nombre de choses. Un certain regard sur Valence. C'est une exposition organisée par la ville de Valence dans la maison du gardien du parc Jouvet. Donc, c'est une exposition de lithogravure qui se passera du 26 septembre au 13 octobre avec des horaires un peu particuliers. Tu pourrais nous le rappeler ?
De midi à 19h30 en septembre. Parce que c'est lié à la fermeture du parc Jouvet. Et en octobre, c'est de midi à 17h30.
Très bien. Ben Jean-Michel, merci d'être passé.
Merci de l'accueil.
Et puis à très bientôt.
Avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Interview. 1-ter-view.
Ok, de bord.
L'interview du jour.